toutes nos excuses pour le retard. Donc, juste avant que Richard commence la présentation, donc je voulais préciser que celle-ci était organisée par l'association Tout Libre, une association de promotion des logiciels libres sur la région de Toulouse, en coopération avec l'APRIL, l'association nationale de référence en ce qui concerne la promotion et la défense du logiciel libre, avec le soutien du cinéma Utopia qui nous accueille ce soir. Donc il n'y a plus de micro. 1, 2. Le micro. Donc avec le soutien du cinéma Utopia qui nous accueille ce soir, et on les remercie de nous accueillir dans cette salle. Et également avec le soutien de la société Communication et Systèmes qui nous a aidé à organiser cet événement. Mais sans plus attendre, je vais laisser immédiatement la parole à Richard pour sa conférence. Merci à tous.
Je peux expliquer le logiciel libre en 3 mots. Liberté, égalité, fraternité. Des choses que l'actuel président de la France n'apprécie pas. Liberté, parce que l'utilisateur est libre de faire ce dont il a besoin et toutes les choses légitimes avec le programme. Égalité, parce que tous les utilisateurs disposent des mêmes libertés. Et fraternité, parce que nous encourageons la coopération entre les utilisateurs. Les programmes. Est-ce que ça va sans micro? Il paraît que pas pour tout le monde. Maintenant. Donc, un programme qui n'est pas libre est un programme privateur, c'est-à-dire qu'il prive aux utilisateurs leur liberté. Un programme privateur maintient ses utilisateurs dans un état de division et impuissance. Division parce que chacun est interdit de le partager avec les autres, et impuissance parce que les utilisateurs n'ont pas le code source et ne peuvent rien changer dans le programme et ne peuvent pas même vérifier indépendamment ce que fait le programme. Mais un programme libre respecte la liberté de l'utilisateur. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a 4 libertés essentielles que tout utilisateur d'un programme doit avoir. La liberté 0, c'est la liberté de faire tourner le programme comme tu veux. La liberté 1, c'est la liberté d'étudier le code source du programme et de le changer pour que le programme fasse ce que tu veux. La liberté numéro 2, c'est la liberté d'aider le voisin. C'est la liberté de distribuer des copies exactes du programme aux autres jusqu'à la publication, quand tu veux. Et la liberté numéro 3, c'est la liberté de contribuer à ta communauté. C'est la liberté de distribuer des copies de tes versions modifiées jusqu'à la publication, quand tu veux. Ces 4 libertés forment la définition du logiciel libre. Un programme est libre si l'utilisateur dispose de ces 4 libertés. C'est-à-dire que le système social de la distribution et l'utilisation de ce programme est un système éthique. Mais si une de ces libertés est absente, le programme est un privateur, c'est-à-dire que le système social de sa distribution et de son utilisation n'est pas éthique. Et ce programme est un problème social. Le développement de programmes privateurs n'est pas une contribution à la société, c'est une attaque à la société. Mais pourquoi ces quatre libertés sont essentielles? Pourquoi définir le logiciel libre comme ça? La liberté numéro 2, la liberté d'aider le voisin, la liberté de distribuer des copies exactes du programme quand tu veux, est essentielle pour des raisons fondamentales éthiques. Pour pouvoir vivre une vie éthique comme bon membre d'une communauté. Si tu utilises un programme sans la liberté numéro 2, tu es en danger de tomber à n'importe quel moment dans un dilemme moral. Quand ton ami te demande une copie du programme, à ce moment, tu devras choisir entre deux mots. Un mal, c'est de lui donner une copie et rompre la licence du programme. L'autre mal est de le nier une copie, lui nier une copie et suivre la licence du programme. Étant dans le dilemme, tu devrais choisir le moindre mal. Ce qui est lui donner une copie et rompre la licence du programme. Pourquoi ce mal est le moindre mal? Parce que quand tu ne peux pas éviter de faire mal à quelqu'un, meilleur que ce soit quelqu'un qui le mérite. Nous pouvons supposer que ton ami est un bon ami, un bon membre de ta communauté et mérite ta coopération. Tandis que le développeur d'un programme privateur aura attaqué délibérément la solidarité sociale de ta communauté. Donc si tu ne peux pas éviter de faire mal à quelqu'un, meilleur que ce soit lui, le développeur. Mais être le moindre mal ne veut pas dire qu'il soit bon. Il n'est jamais bon de faire une promesse et la rompre, bien qu'il y a des promesses malveillantes qui sont pires de suivre que de rompre. Est-ce que c'est correct? Donc, celle-ci est un exemple de ce cas. Faire la promesse de ne pas aider le voisin est immoral en soi. Rompre cette promesse est moins mal que suivre la promesse. Mais néanmoins, ce n'est pas bon. Et si tu lui donnes une copie, qu'est-ce qu'il aura? Il aura une copie pas autorisée d'un programme privateur. Et c'est assez mauvais. C'est presque aussi mauvais qu'une copie autorisée. Donc, si tu as compris bien ce dilemme, qu'est-ce que tu dois faire? Ce que tu dois faire est éviter d'être dans le dilemme. Mais comment? Il y a deux manières. Une manière est ne pas avoir des amis. C'est la manière proposée par les développeurs de logiciels privateurs. L'autre manière est de ne pas utiliser le logiciel privateur. Et c'est la manière que j'ai choisie. Si quelqu'un m'offre un programme privateur, si quelqu'un m'offre un programme sous la condition de ne pas le partager avec vous, je le refuse. Je dis que ma conscience n'accepte pas une telle condition. Et je ne l'utilise pas. Donc c'est la raison pour la liberté numéro 2, la liberté d'aider le voisin, c'est-à-dire la liberté de pratiquer la fraternité. Mais la liberté numéro 0 a d'autres raisons. Son but est d'avoir le contrôle de ta propre computation. Il y a des programmes privateurs qui restreignent, y compris l'utilisation d'une copie autorisée. Évidemment, ce n'est pas avoir le contrôle de ta propre computation. Ils restreignent dans quels ordinateurs cette copie peut s'utiliser, ou par qui, ou pourquoi. Et donc, ce n'est pas acceptable. La liberté zéro est essentielle. Mais elle ne suffit pas, parce que ce n'est que la liberté de faire ou ne pas faire ce que le développeur aura déjà décidé de développer dans le programme. Pour vraiment avoir le contrôle de ta propre computation, il faut aussi la liberté numéro 1, la liberté d'étudier le code source du programme et de le changer pour que le programme fasse ce que tu veux. Comme ça, tu décides et pas lui, le développeur. Si tu utilises un programme sans la liberté numéro 1, tu ne peux pas être sûr de ce qu'il fait. Et beaucoup de programmes privateurs contiennent des fonctionnalités malveillantes, conçues pour, pas pour servir l'utilisateur, mais plutôt pour surveiller l'utilisateur, restreindre l'utilisateur, ou même pour attaquer l'utilisateur. Beaucoup de programmes privateurs font de la surveillance. Un programme privateur qui le fait, que peut-être tu connais de nom, s'appelle Microsoft Windows. Quand l'utilisateur de Windows, et je ne dis pas toi parce que tu n'utiliserais un tel programme, quand l'utilisateur de Windows utilise la fonctionnalité dans les menus pour chercher quelque chose dans ses propres fichiers, Windows envoie un message disant quel mot a été recherché. Une fonctionnalité de surveillance. Mais il y a une autre. Quand Windows demande une mise à jour, il envoie la liste de tous les programmes installés dans la machine. Autre fonctionnalité de surveillance. Ce sont les deux fonctionnalités de surveillance connues dans Windows. C'est possible qu'il y en a d'autres, mais on ne peut pas être certain. Microsoft n'a jamais annoncé la présence de ces deux fonctionnalités malveillantes. Il fallait de l'investigation pour les trouver, pour les découvrir. Donc peut-être des autres restent à découvrir. Comment savoir? Mais ce n'est pas que Windows qui le fait, parce que Windows Media Player aussi fait la surveillance. Il dit toutes les choses que l'utilisateur regarde, mais ce n'est pas uniquement Microsoft qui fait de la surveillance. Beaucoup pensent que Microsoft est est mauvais et tout le reste des développeurs sont bons. Ce n'est pas vrai. Par exemple, RealPlayer fait la surveillance pareille. Et je crois que RealPlayer la faisait le premier, parce que Microsoft est plus connu pour l'imitation que pour l'invention. Et beaucoup d'autres programmes privateurs le font. Mais il y a des choses pires encore. Il y a la fonctionnalité de ne pas fonctionner pour toi. Et je ne parle pas des erreurs, ce sont des fonctionnalités délibérées. Par exemple, quand le programme te dit « je ne veux pas te montrer ce fichier, bien que ce soit dans ton ordinateur. Je ne veux pas te permettre de copier une portion de ce fichier, bien que ce soit dans ton ordinateur. Je ne veux pas imprimer ce fichier pour toi, parce que je ne t'aime pas. » Il s'agit des menottes numériques, c'est-à-dire la gestion numérique des restrictions, ou DRM selon l'acronyme anglais. La fonctionnalité délibérée de ne pas fonctionner pour toi. Windows le fait, Mac OS le fait. Windows Vista a été conçu comme une avance dans les menottes numériques. C'est son but. Nous avons deux campagnes d'action politique contre ces deux problèmes. Nous avons la campagne defectivebydesign.org. C'est une campagne de manifestation contre la gestion numérique des restrictions. Et il y a plus de 20 000 membres, mais nous avons besoin de plus encore. Et tu peux t'adhérer dans le site et participer dans les manifestations. Nous avons fait des manifestations aux conférences de Microsoft face aux boutiques Apple, face au cinéma, parce que les entreprises du ciné font de la pression pour les menottes numériques. Et nous ferons d'autres manifestations. Et aussi, il y a la campagne badvista.org. Parce que le but de Vista est d'augmenter le pouvoir de Microsoft sur ses utilisateurs, c'est de serrer plus fort la chaîne. Et donc, les utilisateurs qui ne sont pas prêts à s'échapper de Windows doivent au moins ne pas adopter Windows Vista. S'ils ne sont pas prêts à améliorer leur cas, ils doivent éviter d'empirer leur cas. Parce que sous l'empire, les choses vont de pire en pire. Et il y a aussi les fonctionnalités malveillantes pour attaquer l'utilisateur, les portes cachées. Un programme privateur qui contient une porte cachée que peut-être tu connais de nom s'appelle Microsoft Windows. Quand Windows XP demande une mise à jour, Microsoft connaît plus ou moins l'identité de l'utilisateur et peut lui livrer une mise à jour spécifiquement pour lui. C'est-à-dire, Microsoft a l'opportunité de prendre le contrôle complet de son ordinateur. Et l'utilisateur n'a pas de n'a pas de... Non, je ne sais pas le dire en français. Ne peut rien faire, ne peut pas résister, à part remplacer Windows. C'est la porte cachée connue, parce que nous pouvons déduire sa présence des faits connus. Peut-être il y en a d'autres. Il y a quelques années, en Inde, ils m'ont dit qu'ils avaient arrêté quelques programmeurs indiens qui travaillaient dans le développement de Windows, les accusant de travailler en même temps pour Al-Qaïda, introduisant une autre porte cachée que Microsoft ne devait pas connaître. Il paraît que cet essai n'est pas réussi. Mais est-ce qu'il y avait une autre? Nous ne pouvons pas vérifier. Mais nous savons que est-ce qu'il y a une manière de d'empêcher la répétition de ce problème?
Je vais chercher une tournevis.
Oui. Ce n'est pas mon problème, c'est le problème d'eux. De toute manière, Microsoft, à l'année 99, quelqu'un a découvert que Microsoft avait introduit une porte cachée pour l'utilisation d'une autre organisation terroriste, même plus violente qu'Al-Qaïda, c'est-à-dire le gouvernement des États-Unis. J'ai une idée. Non. Cette porte cachée a été mise dans un programme de serveur, j'ai oublié le nom. Mais de toute manière, cet exemple nous démontre que il est impossible de faire confiance justement dans un programme privateur sans la liberté numéro un. Ces programmes exigent une foi aveugle de l'utilisateur au développeur. Parce que l'utilisateur n'a pas le moyen de faire autrement. Il n'y a jamais de raison pour y faire confiance. Donc, la foi aveugle, c'est la seule manière de l'utiliser. Il y a des programmes privateurs dans lesquels nous avons découvert des fonctionnalités malveillantes. Et il y a des programmes privateurs dans lesquels nous n'avons pas encore découvert des fonctionnalités malveillantes. Et quelques-uns ne les ont pas. Et quelques-uns, oui, ont des fonctionnalités malveillantes pas encore découvertes. Donc, il n'y a jamais la manière d'être certain qu'un programme privateur sans la liberté numéro un ne contient pas de fonctionnalités malveillantes. Mais il y en a qui n'ont pas de fonctionnalités malveillantes, bien que nous ne puissions pas être certain de lesquels. Mais dans ce cas, qu'est-ce que nous pouvons dire? Même si le développeur n'introduit pas délibérément des fonctionnalités malveillantes, il est humain. Il fait des erreurs. Donc, le code de ces programmes contient des erreurs. Et l'utilisateur d'un programme sans la liberté numéro un est également impuissant face à une erreur accidentale que face à une fonctionnalité malveillante délibérée. Si tu utilises, merci, un programme, quoi? Oui, je ne sais pas. Est-ce que ça fonctionne? Il faut voir, il faut attendre pour savoir. Laisse la tournevis. Merci. Si tu utilises un programme sans la liberté numéro un, tu es prisonnier de ton logiciel. Nous, les développeurs de logiciels libres, sommes également humains. Nous faisons des erreurs et notre code aussi contient des erreurs. La différence est que quand tu trouves une erreur dans notre code, tu as la liberté de la corriger. Tu peux changer n'importe quoi dans notre code qui ne fonctionne pas bien pour toi. Nous ne pouvons pas nous rendre parfaits. Nous pouvons respecter ta liberté. Et voici toute la différence. Mais la liberté numéro un ne suffit pas. Parce que c'est la liberté d'étudier personnellement et changer personnellement le code source du programme. Et ce ne suffit pas parce qu'il y a des millions d'utilisateurs qui ne savent pas programmer. Ils ne savent pas exercer directement cette liberté. Mais même pour les programmeurs comme moi, la liberté numéro un ne suffit pas parce qu'il y a trop de logiciels libres. Trop pour étudier tous et se faire maître de tous les programmes libres qu'on utilise pour faire personnellement tous les changements qu'on peut désirer. C'est trop de travail pour une personne. Donc la seule manière d'avoir complètement le contrôle de notre computation, c'est de le faire ensemble, dans coopération, en coopération. Et pour ça, il faut la liberté numéro 3, la liberté de contribuer à ta communauté, la liberté de diffuser des copies de tes versions modifiées, quand tu veux. Avec cette liberté, un peut faire un changement et beaucoup peuvent l'utiliser. Il n'est plus nécessaire que chacun fasse le même changement pour lui-même. Comme ça, s'il y a 1 million d'utilisateurs d'un programme libre qui désirent quelques changements, par hasard, il y aura quelques 1000 d'entre eux qui savent programmer, et un jour, quelques-uns feront ce changement et publieront sa version modifiée, et tout le million pourront installer cette version et avoir le changement, sans l'avoir écrit personnellement. Comme ça, tous les utilisateurs reçoivent les bienfaits des 4 libertés. Chaque utilisateur peut exercer les libertés 0 et 2. La liberté de faire tourner le programme comme tu veux et de distribuer des copies exactes du programme quand tu veux. Parce que ces deux activités n'exigent pas programmer. Mais les libertés numéro 1 et 3 s'y impliquent programmer. Donc chacun peut exercer ces deux libertés jusqu'au point qu'ils savent programmer. Et ce n'est pas une question binaire, parce que il est très utile d'apprendre à faire des changements faciles sans apprendre être programmeur professionnel. Juste comme il est très utile d'apprendre à faire de la maintenance facile de la de ta voiture sans apprendre assez pour être mécanicien professionnel. Donc, il y a une petite fraction qui savent programmer bien, et plus qui savent programmer un peu, et beaucoup qui ne veulent pas apprendre à programmer. C'est vrai, donc pas tout le monde sait utiliser, sait exercer ces deux libertés, 1 et 3. Mais quand les programmeurs font des changements et publient leurs versions modifiées, tout le monde peut les utiliser ou pas, comme ils veulent. Et comme ça, tous les utilisateurs reçoivent les bienfaits. Et le résultat combiné de toutes ces libertés, c'est la démocratie. Parce que un programme libre développe démocratiquement sous le contrôle de ses utilisateurs. Chacun peut participer dans les décisions de que fera ce programme dans l'avenir. Ou par écrire des changements, ou par payer quelqu'un d'autre à faire des changements et les publier, ou par convaincre le cousin à faire des changements pour lui et les publier, ou par seulement choisir la version à utiliser et à recommander. Tout le monde peut participer dans la décision, plus ou moins comme il veut. Et la totalité de toutes ces décisions individuelles font la décision sociale. Par contre, un programme privateur développe sous la dictature de son développeur et impose le pouvoir du développeur aux utilisateurs. Donc c'est un système social injuste. Mais supposons qu'il y a seulement 1000 utilisateurs qui désirent quelques changements dans un programme libre et que personne d'entre eux s'est programmé. Les utilisateurs peuvent néanmoins utiliser les quatre libertés pour avoir les changements qu'ils désirent. Comment? Ils peuvent se mettre en contact et lancer une organisation pour le faire. Et l'idée est que chacun s'adhère à l'organisation et doit payer quelque chose, quelque somme d'argent à l'organisation pour être membre. Et comme ça, l'organisation ramassera de l'argent pour payer, pour engager quelqu'un pour faire le changement désiré. Si c'est un changement de taille moyenne, peut-être il coûtera 10 000 euros si quelqu'un doit travailler pour un mois. Donc, l'organisation peut dire à chacun, payez 10 euros. Pour vous adhérer. C'est pas beaucoup. Mais comme ça, l'organisation aura 10 000 euros. Ou peut-être l'organisation peut dire payer 20 000 euros, supposant que seulement la moitié le feront. Mais de toute manière, ce n'est pas beaucoup. Et ensuite, l'organisation peut parler avec quelques groupes de programmation posant des questions pour choisir qui employer. Et enfin, l'organisation paiera des programmeurs à le faire. Cet exemple nous démontre que le logiciel libre porte avec lui un marché libre pour tout service. Par contre, le support un programme privateur est presque toujours un monopole. Parce que uniquement le développeur possède le code source, uniquement lui peut faire n'importe quel changement. Un utilisateur qui désire un changement doit prier au développeur, « Oh, développeur omnipotent, faites ce changement pour moi !» Des fois, le développeur dit aux utilisateurs, « Payez-nous pour écouter votre problème. » Si l'utilisateur le fait, le développeur lui dit, « Merci beaucoup, dans 6 mois, il y aura une mise à jour. » Achetez-le et vous verrez si nous aurons corrigé votre problème et quel problème nouveau nous vous allez offrir. Ah, j'ai fait une erreur de grammaire. Maintenant, je la note. Mais je continue. Dans ma honte. Comme ça, nous pouvons voir que il n'y a pas manière de s'échapper du monopole dans le logiciel privateur. Parce que il y a toujours un monopole. Quand il y a un choix de produits de logiciels privateurs, c'est un choix de monopole. Parce que l'utilisateur qui choisit ce programme privateur tombe après dans ce monopole de support. Mais s'il choisit ce programme privateur, il tombe dans ce monopole de support. Donc c'est un choix entre monopoles. Pas de chemin pour s'échapper du monopole. Le seul chemin pour éviter le monopole, c'est d'éviter le logiciel privateur. De s'échapper au monde libre. Parce que, avec le logiciel libre, n'importe qui possède une copie peut étudier le code source et se faire maître du code et offrir le support. Excusez-moi. Donc, il y a un marché libre avec de la concurrence. Par conséquent, toutes les entreprises, toutes les organisations, tous les organismes qui utilisent du logiciel et apprécient le bon support doivent exiger le logiciel libre pour avoir les bienfaits de la concurrence dans le support. Ce paradoxe illustre un principe profond. La liberté est beaucoup plus large qu'avoir le choix entre quelques options fixes. Parce que la liberté, c'est d'avoir le contrôle de ta propre vie. Avoir seulement le choix entre des options est beaucoup moins. Et quand quelqu'un veut essayer de démontrer que la liberté ne vaut pas beaucoup, il commence souvent par dire que la liberté, c'est la liberté de choisir. C'est-à-dire, il réduit la liberté, qui est quelque chose assez large, dans le choix entre quelques options, beaucoup plus petites. Donc, maintenant, il a la tâche de démontrer que cette petite chose ne vaut pas beaucoup. beaucoup plus facile parce qu'il a oublié, il a déjà oublié la grande partie de la liberté. Avoir le choix entre programme privateur, c'est pouvoir choisir ton maître. La liberté, c'est de ne pas avoir maître. Et dans l'informatique, la liberté veut dire ne pas utiliser de logiciels privateurs. Et ça, c'est le but du mouvement de logiciels libres. La libération du cyberespace et de tous ses habitants. Il était impossible d'être, de vivre en liberté dans le vieux monde du cyberespace où chaque programme à son seigneur. Donc nous avons construit un nouveau continent dans le cyberespace, c'est-à-dire le monde libre. Et pour vivre en liberté, il faut t'échapper au monde libre. Parce que nous avons, parce que c'est un continent virtuel, il a de la place pour tous. Et parce qu'il n'y avait jamais des peuples indigènes dans le cyberespace, il n'y avait pas de problème de les déplacer. Donc, je vous invite tous à vous échapper au monde libre, à utiliser un système d'exploitation libre, comme par exemple le système GNU et Linux, ou le système BSD, et d'utiliser uniquement les applications libres sur le système, pour vivre en liberté. Parce que si tu utilises un programme privateur, ce programme t'a ôté la liberté, t'a privé de la liberté. La seule manière de garder la liberté est de rejeter les programmes privateurs. Mais comment le faire? Quand j'ai commencé à vouloir utiliser les ordinateurs en liberté, dans l'année, quand j'ai décidé que je voulais le faire, à l'année 83, il était impossible parce que tous les systèmes d'exploitation étaient privateurs. Il était impossible d'acheter un ordinateur et l'utiliser en liberté. Donc, quoi faire? Je ne pensais pas que je pourrais convaincre les gouvernements à changer leurs lois, ni convaincre les entreprises à changer leurs pratiques. Mais j'ai reconnu un chemin pour arriver à la destination par un travail technique. C'est-à-dire, si je développais un programme, un système d'exploitation nouveau, je pourrais le rendre libre moi-même. Et comme ça, tous les utilisateurs pourraient l'utiliser en liberté. Et moi, j'étais développeur des systèmes d'exploitation. C'était mon domaine. Donc, je savais le faire. Au moins essayer. Donc, j'ai reconnu que j'avais été élu par les circonstances pour faire ce travail. C'était mon devoir de citoyen. J'étais conscient d'un programme social grave et croissant et que presque personne ne reconnaissait comme un problème. et j'avais les capacités nécessaires pour essayer de résoudre ce problème, corriger le problème, et il paraissait probable que personne d'autre ne le ferait si ce n'était pas moi. Donc, je devais le faire. C'est comme si tu vois quelqu'un en train de se noyer et tu sais nager et il n'y a personne et il n'est pas Bush. Ni la sarcome. Tu as le devoir de le sauver. En ce cas, le travail à faire n'était pas nager. Je ne sais pas nager, mais en ce cas, le travail à faire était développer beaucoup de logiciels. Et ça, je savais faire. Donc, j'ai décidé de développer un système d'exploitation libre ou mourir dans l'essai. De la vieillesse, il faut supposer. Parce que à l'époque, le mouvement de logiciel libre que j'étais en train de lancer n'avait pas d'ennemis actifs. Beaucoup n'étaient pas d'accord, mais ils riaient et c'était tout. Donc, l'obstacle n'était pas l'opposition active, mais plutôt un montant de programmes à écrire pour avoir tout un système d'exploitation. Et personne ne savait au commencement si un jour nous aurions tout un système d'exploitation libre. Même pas moi, je ne le savais pas. Mais quand il s'agit de lutter pour la liberté, on ne peut pas attendre que la victoire soit évidente. Pour commencer. Parce que comme ça, on perd la majorité des opportunités possibles. Donc il faut commencer quand il y a l'opportunité de commencer. Et parfois, on gagne. Donc j'ai décidé de développer un système d'exploitation libre, mais comment ? J'ai choisi de faire un système semblable à Unix parce que Unix était portable et je voulais développer un système portable. Et j'ai décidé de le faire compatible avec Unix pour que les utilisateurs d'Unix, qui étaient beaucoup, puissent facilement migrer au système nouveau. Donc j'avais besoin de noms. Et j'ai suivi une coutume de ma communauté qui était, quand il y avait besoin de développer un programme semblable à un autre programme, on pouvait le donner comme nom un acronyme récursif, disant que ton programme n'est pas l'autre. Comme par exemple, en 75, j'ai développé le premier éditeur de texte, Emacs, qui était un éditeur de texte extensible. Et après, il y avait plus ou moins 30 imitations, ou, c'est-à-dire 30 autres programmes du même type. Et beaucoup s'appelaient quelque chose Emacs, mais il y avait aussi Fine, qui voulait dire Fine is not Emacs. Et aussi Sign, pour Sign is not Emacs. Et il y avait Eine, pour Eine is not Emacs. Et il y avait Mince, pour Mince is not complete Emacs. Et la version 2 de eine s'appelait zwei, pour zwei was eine initially. On peut s'amuser beaucoup avec des acronymes récursifs. Donc j'ai choisi un acronyme récursif pour quelque chose n'est pas Unix. Et donc j'ai choisi le mot GNU. G-N-U. GNU's not Unix. Ou GNU n'est pas Unix. Et je l'ai choisi parce que dans la langue anglaise, c'est le mot le plus chargé d'humour. Parce que il s'utilise pour beaucoup de jeux de mots. Et pourquoi? Selon le dictionnaire, ce mot se prononce new, comme nouveau. Et donc, chaque fois que tu veux écrire le mot new, pour nouveau, tu peux l'écrire G-N-U, et c'est un jeu de mots. Peut-être pas très bon, mais il y en a beaucoup. Et des fois, oui, il est bon. De mon enfance, il y avait une chanson amusante basée sur le mot GNU. Donc, donner une raison spécifique pour l'utiliser pour quelques programmes ou systèmes, je ne pouvais pas le résister. Mais quand il s'agit de notre système d'exploitation, il faut ne pas suivre le dictionnaire, surtout en anglais, parce que si quelqu'un parle de « the new system », il peut confondre les gens, parce que notre système n'est plus nouveau. Nous avons travaillé dessus pendant presque 24 ans. Il n'est plus nouveau, mais il reste GNU. Donc il faut le prononcer GNU. Pas nous et pas Linux. Cette erreur est très commune. C'est vraiment décevant. Parce que, par exemple, hier, je suis allé à un congrès qui s'appelait un congrès sur le système GNU et Linux, et c'était bon, mais avec comme symbole un manchot. Donc, je suis entré et j'ai dit au chef du congrès, « J'ai horrible manchot. Le voici, l'horrible manchot. Et il m'a promis de mettre un gnou avec le manchot la prochaine fois. Donc, ce sera bon. Parce que le système qui est connu actuellement, le système qui s'utilise, c'est le système GNU que j'ai lancé, dont j'ai lancé le développement en janvier 84, avec comme noyau un programme qui s'appelle Linux. C'est un des composants importants du système, mais ce n'est pas le système entier. Le système entier, basiquement, est le système GNU. Et il existe à cause de notre campagne pour la liberté. Et il faut ne pas l'oublier. Ceux qui appellent le système comme Linux font une erreur. Et c'est dommage, ils ne reconnaissent pas notre travail. Et ce n'est pas juste. Mais c'est vrai que la reconnaissance du travail n'est pas la question éthique la plus importante de la vie. Et dans cette question des noms, il y a quelque chose de plus important dans l'enjeu. Ta liberté. Parce que le nom Linux n'était jamais associé avec la liberté comme valeur. Mais le nom GNU, oui. c'est parce que le développeur de Linux n'apprécie pas la liberté. Et il le dit. Il a dit tous les jours. Et comme ça, quand les gens pensent que le système entier, il est Linux, ils pensent que le système vient de la vision du monde de Linus Torvalds. Et qu'est-ce que c'est que sa vision? Sa vision, c'est la vision d'un ingénieur. Il apprécie les valeurs pratiques, comme d'avoir des programmes fiables, commodes, pas chers. Il n'apprécie pas les droits de l'homme. Il s'appelle, en anglais, je ne sais pas si ce mot se traduit, en anglais, il s'appelle apolitical. Comment dit-on? Apolitique se dit? Merci. Donc, il s'appelle apolitique. Et qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il a la posture politique de décider les questions politiques selon la commodité pratique du moment. Et je crois que c'est erroné. Mais les gens qui supposent que tout le système d'exploitation existe grâce à lui ont la tendance de le suivre dans sa vision politique. Et c'est-à-dire la tendance d'oublier sa propre liberté. Et celui qui ne fait pas attention à sa propre liberté est en danger de la perdre. Parce que la liberté est souvent menacée. Pour la garder, il faut la défendre. Pour la défendre, il faut l'apprécier. Et pour l'apprécier, il faut la connaître d'abord. Pour savoir ce qui se passe quand les citoyens d'un pays oublient l'importance de sa liberté, il suffit de regarder les États-Unis, où notre propre élu nous ont ôté les droits de l'homme fondamentaux en nom de nous protéger de notre ennemi secondaire. Et ce peut avoir lieu en France bientôt. Donc, il faut d'abord connaître les droits de l'homme. Et dans des autres champs de la vie, les droits de l'homme se connaissent parce qu'il y a des siècles que les gens parlent des droits de l'homme, qu'est-ce qu'ils sont, et éduquent les autres à apprécier les droits de l'homme. Ce ne veut pas dire que les défendre, les préserver est facile, mais au moins nous avons une base dans laquelle commencer. Mais dans l'informatique, étant un domaine nouveau dans la vie, nous n'avons pas eu beaucoup de temps pour parler de ce sujet, des droits de l'homme dans l'informatique. Et le débat a été toujours dominé par les grandes entreprises. Les utilisateurs ont commencé à faire de l'informatique avec des logiciels privateurs, ne voyant autour d'eux que le logiciel privateur, et ils supposaient que le logiciel devait être privateur et que c'était normal et qu'il n'y avait pas d'autre manière de le faire. Donc nous avons devant nous un grand travail d'éducation de montrer aux utilisateurs de l'informatique qu'il y a une autre manière, qu'il y a la possibilité de la liberté. Même dans la communauté des utilisateurs du système GNU et Linux, la grande majorité n'ont jamais entendu cette idée. C'est inouï. Ils n'ont jamais pensé dans la possibilité qu'ils méritent des libertés dans l'utilisation d'un logiciel. C'est comme être des cerfs qui n'ont jamais pensé être autre vie, qui n'ont jamais entendu mentionner la liberté. Et je crois que l'erreur d'appeler le système Linux contribue à cet oubli de la liberté. Parce que quand il pense que le système soit Linux, il suit les idées de Monsieur Torvalds. Et quand il voit les articles philosophiques du projet GNU, ils se disent mais ce n'a rien à voir avec moi parce que c'est la philosophie de GNU et moi je suis utilisateur de Linux. Quelle ironie. S'ils savaient que le système qu'ils utilisent est vraiment GNU, peut-être ils nous feraient plus d'attention. Et nous aurions la possibilité de les convaincre. Et comme ça, nous avons besoin de ton aide. Si tu as le temps, tu peux expliquer la philosophie du mouvement de logiciels libres, ce que je viens de t'expliquer aux autres. Et c'est une contribution très importante. Mais peut-être un jour tu n'as pas le temps de le faire parce qu'il faut au moins 10 minutes. Donc il y a une autre manière de nous aider dans une seconde. Disons GNUE avant Linux. Ou écrivant, tapant GNU trait d'union avant Linux. Et comme ça, tu ne peux pas expliquer la philosophie parce que il n'y a pas la manière d'expliquer une philosophie dans une seconde. Mais ce que tu peux faire, c'est de enseigner aux autres que le système qu'ils utilisent ou qu'ils connaissent est vraiment GNU et Linux. Et comme ça, plus tard, quand ils trouvent un article sur la philosophie du logiciel libre et du projet GNU, ils reconnaîtront que cet article a quelque chose à voir avec lui. Il n'y a rien de plus efficace que tu pourrais faire dans une seconde pour nous aider. Si tu ne fais pas d'autre chose, prière de le faire. Mais nous avons besoin d'autres participations, bien sûr. La participation dans le développement des programmes libres, la participation dans le développement des manuels libres pour les logiciels libres, la participation dans l'organisation des utilisateurs politiquement. Il y a en France une association des internautes qui a fait des merveilles politiquement, qui a fait le logiciel libre une question électorale pour la première fois dans le monde. Mais ce ne suffisait pas. Donc il reste plus à faire. Cette association a besoin de ton aide. L'organisation April en a besoin. April promeut le logiciel libre en France. Et April a besoin de toi. Aussi, il y a la fondation de logiciels libres. Si tu veux t'adhérer à la fondation, tu peux le faire à travers le site fsf.org ou avec des cartes qu'il y aura à la sortie si tu veux le faire en liquide ou avec la carte crédit. Parce que nous avons besoin de ta contribution de l'argent et du travail. Il y a beaucoup de projets qui ont besoin des volontaires. Par exemple, organiser des manifestations dans la campagne defectivebydesign.org. Et un tas d'autres choses. Dans la page gnu.org slash help, tu peux voir une longue liste de suggestions de comment nous aider. Et nous avons même plus besoin de ton aide aujourd'hui, parce que aujourd'hui nous avons quelque chose que nous n'avions pas il y a 20 ans. Nous avons des ennemis puissants, des entreprises comme Microsoft, et pas seulement Microsoft, qui veut nous ôter même la possibilité de servir le public avec du logiciel libre. Il y a 20 ans, la question était si nous serions un jour capables de livrer au public un système libre et complet. Maintenant, nous l'avons fait. Nous avons développé aussi des environnements graphiques libres, des suites de... Quand j'entends le mot bureautique, je pense toujours dans faire l'amour au bureau. Dès lors, vous aussi le penserez toujours aussi. Et des milliers d'applications libres. Maintenant, la question est si le logiciel libre sera interdit. Personne n'a proposé des lois pour directement interdire le logiciel libre, mais il y a des lois qui interdisent des programmes libres pour faire des tâches légales. Aux États-Unis, il y en a deux. Il y a une loi qui était le modèle plus ou moins pour le DADFSI, l'inspiration peut-être, qui s'appelle le DMCA, qui interdit des programmes libres pour accéder aux fichiers cryptés. Comme par exemple, le film dans un DVD. Il y a un programme libre pour le faire. Il s'appelle DECSS. Et la distribution de ce programme aux États-Unis est illégal. Donc, aux États-Unis, un des droits qu'on possède toujours, il y a moins aujourd'hui, mais un droit qu'on possède toujours, c'est le droit de, ayant acheté un DVD, de regarder le film. Mais le logiciel libre capable de le faire est illégal, censuré. Et quand il y a un problème aux États-Unis, le gouvernement des États-Unis n'essaie pas de résoudre le problème, mais plutôt de l'imposer, de l'étendre au reste du monde. Et le résultat percevoir dans le DADFSI, qui est encore pire, qui interdit même la possession d'une copie de ce programme. Comment pouvons-nous servir le public si c'est illégal? Mais un tribunal en Finlande a décidé quelque chose d'intéressant il y a quelques semaines. Il a décidé que la distribution de ce programme est légale parce que ce programme est si commun, si répandu, que le système d'encryption des DVD n'est plus effectif. Donc, si cette décision perdure, le problème est résolu en Finlande, mais nous pouvons prévoir l'essai de changer le résultat par faire un appel pour changer la loi, qui sait. Mais les grandes entreprises médiatiques ont beaucoup de ressources pour essayer de changer les résultats qu'elles n'aiment pas. Aux États-Unis, il y a une deuxième loi capable d'interdire n'importe quel programme libre. C'est la loi des brevets. Parce qu'aux États-Unis, n'importe quelle idée technique peut être brevetée, y compris les idées de l'informatique. Nous appelons ces brevets les brevets informatiques ou les brevets sur les idées pour le logiciel. Il ne s'agit pas de breveter un programme. Chaque brevet n'est pas basé sur un programme spécifique. C'est un monopole imposé sur l'implémentation ou la pratique d'une idée. Et le brevet décrit l'idée brevetée interdite. Chaque grand programme combine des milliers d'idées. Dans un pays idiot qui autorise les brevets informatiques, il y a donc un danger avec chaque idée implémentée dans le programme. Le danger que cette idée soit brevetée. Donc, avec chaque décision technique, il y a le risque de marcher sur un brevet qui s'explose et détruit le projet. Il n'y a pas manière, et ce danger s'applique à tous les développeurs de logiciels. N'importe quel développeur d'un programme peut avoir un procès pour avoir implémenté une idée brevetée. Et quand il y a tant d'idées dans un seul grand programme, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup de risques différents pour développer un seul programme. C'est un système idiot. C'est pour cette raison que je dis les pays idiots qui autorisent les brevets informatiques. Et les grandes entreprises globales désirent les brevets parce que la moitié des brevets mondialement appartiennent aux grandes entreprises. Chaque grande entreprise possède des milliers de brevets dans son domaine. Et les grandes entreprises font des licences croisées entre elles. Et donc, le reste sont les victimes. Mais parfois, même les grandes entreprises aussi sont les victimes. J'ai lu il y a quelques semaines qu'il y a maintenant une entreprise qui cherche des idées pour la correction des problèmes de sécurité informatique, pour les breveter. c'est vrai, cette entreprise veut breveter les manières de corriger des problèmes de sécurité pour faire du chantage avec. Mais les grandes entreprises et leur gouvernement domestique en Washington cherche à imposer les brevets informatiques partout dans le monde, y compris dans l'Union européenne. Donc, il y avait plusieurs essais, et il y a 2 ans, nous avons vaincu un essai, et maintenant on prépare un autre. Il y a une organisation qui s'appelle FFII, qui a fait beaucoup de travail pour vaincre l'autre, plusieurs essais. Et donc, il faut y faire attention et participer pour vaincre le prochain essai. Et un jour, si nous travaillons fort, peut-être je verrai le jour quand les utilisateurs, les orienteurs, les habitants du cyberespace sont libres. Donc, maintenant, des questions. Quelle heure est-il? Oui, des questions. Il faut parler fort, je suis dur d'oreille et je suis étranger. Oui. Quand une entreprise est grande et fait beaucoup de choses, je préfère de juger chaque chose séparément. Google subventionne le développement de logiciels libres. C'est utile, c'est une contribution. Google exécute beaucoup de programmes dans ses serveurs. Et ce n'est ni bon ni mauvais. On a le droit de le faire. Donc Google utilise beaucoup de logiciels libres et fait des changements privés, mais on a le droit de le faire. On a le droit de faire des changements et les utiliser. On a aussi la liberté de publier des versions modifiées, mais ce n'est pas une obligation, c'est une liberté. Donc on peut exercer la liberté numéro 1 et pas la liberté numéro 3. C'est légitime. Donc, ce n'est pas peut-être, c'est la faute d'une contribution, mais ce n'est pas injuste. Parce que cette conduite n'impose pas aux autres la faute de liberté. Mais Google fait aussi des mauvaises choses, comme par exemple la distribution de logiciels privateurs. Il y a le client de Google Earth qui est privateur. Je leur ai demandé pourquoi. Ils m'ont dit que c'était pour restreindre l'accès aux données, c'est-à-dire pour la DRM, les menottes numériques. Et aussi Google fait des choses qui sont mauvaises pour des autres raisons, parce que le logiciel privateur n'est pas l'unique conduite pas éthique dans le monde. Il y a d'autres problèmes, d'autres raisons pourquoi quelque chose peut être immoral. Google fait beaucoup de surveillance des utilisateurs. Et aux États-Unis, selon la loi, la police nationale peut recueillir presque toutes les données que les entreprises maintiennent sur les individus sans même passer par un tribunal. Si peu les États-Unis respectent le droit à la vie privée. Donc, si Google connaît quelque chose, l'FBI le connaît aussi. Et comme ça, il faut reconnaître que toutes les entreprises qui gardent des données sur un individu aux États-Unis le font pour l'État. C'est la surveillance pour l'État également. Donc, il faut faire plus de choses pour nous défendre contre la surveillance des sites web. Et moi, je ne fais presque jamais du commerce électronique. Et je n'utilise presque jamais les cartes de crédit pour acheter les choses. Seulement pour acheter les billets d'avion et pour louer une voiture ou pour un hôtel. Parce que eux, ils exigent de savoir mon nom de toute manière. Mais pour acheter les choses, je les achète avec du liquide, sans dire qui je suis.
S'il y a des questions et que vous n'avez pas forte voix, je vous passe un micro.
Je ne comprends pas la question. Je n'ai pas entendu tous les mots, mais peut-être je sais ce que c'est la question. Si une entreprise veut faire des changements dans un programme libre, si l'entreprise veut faire des changements privés dans un programme libre, je crois que c'est légitime, mais l'entreprise ne le fait pas, ce sont les employés qui le font. Et je crois que c'est légitime. Et je dirais que cette copie n'est pas la copie de l'employé, mais plutôt la copie de l'entreprise. C'est l'entreprise qui a les quatre libertés, qui pourrait la publier, mais n'est pas obligée de le publier. Mais je ne suis pas certain qui c'est la question. Est-ce que c'était la question? Orienté quoi? Je n'entends pas.
Micro.
Micro. Elle n'a pas voulu.
Ça marche. Est-ce que les SS2I qui font leur du blé sur le logiciel libre ne pourraient pas reconnaître un droit d'auteur comme
Je comprends ce que ça veut dire.
Ouais.
Reconnaître un droit d'auteur.
Ouais.
Qu'est-ce que ça veut dire? Concrètement.
Par exemple, les gens qui écrivent des articles dans les journaux, ils signent avec leur nom et le droit d'auteur est reconnu par leur convention collective. Alors que nous, en informatique, on a la pire des conventions collectives, la Syntec, qui ne reconnaît pas le droit d'auteur individuel des développeurs.
Et qu'est-ce que vous voudrez dire concrètement? Parce que reconnaître ou pas, ne pas reconnaître un droit d'auteur ne m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse serait les résultats en fonction des libertés de toutes les parties dans la question. Qu'est-ce que le résultat concret que vous désirez?
C'est-à-dire que quand je développe un logiciel dans une SS2I pour un client.
SS2I, c'est quoi?
Société de services en logiciel libre. Il y en a beaucoup maintenant en France.
Oui.
Et la plupart ne reconnaissent pas le droit individuel.
Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous désirez concrètement?
Concrètement, que quand je développe un logiciel dans ces entreprises, mon nom soit collé au logiciel et que ce soit sous GPL, ce qui n'est pas toujours le cas. Moi, j'ai travaillé.
Deux choses. Que votre nom soit mentionné dans le programme, je serais d'accord, mais je suppose que les employés peuvent l'exiger parce que une telle société a besoin des bons employés. Mais l'autre chose, que ce soit sous la GPL, si c'est un changement dans un programme sous la GPL, ici l'entreprise distribue sa version modifiée, il doit être sous la GPL. S'il n'est pas sous la GPL, l'entreprise a violé le droit d'auteur du développeur original qui peut faire un procès. Qui que ce soit qui ont mis son nom sur le programme, s'il est distribué sans la GPL, c'est illégal. Mais peut-être vous voulez dire un autre cas.
Bah, dans les développements de sites web, on utilise beaucoup de logiciels libres pour produire un soft qui est, qui est pas forcément dépendant, mais on utilise des logiciels libres. Et le résultat est pas forcément publié en...
Ah oui, c'est légitime. Mais des fois, il est bon de publier les changements. Si les changements sont utiles généralement, donc les publier, c'est une contribution à la communauté. Mais je pense que ce sont les employés qui doivent exiger cette pratique de l'entreprise.
C'est facile à exiger quand c'est en faveur de quand le marché est en notre faveur
et
quand le marché est en la faveur des développeurs, ça va bien. Quand c'est dans l'autre sens, ça va mal.
Peut-être, mais de toute manière, il y a une licence, la GPL Affero, qui est conçue pour exiger que les versions modifiées quand ils s'utilisent dans un serveur public que soit disponible dans code source au public. Donc c'est une autre manière qui s'utilisera.
Hey, sans micro, non. Il est où?
Il voulait savoir la différence entre la GPL version 2 et version 3. Il y a beaucoup de différences, mais l'idée est pareille. L'idée est de protéger les quatre libertés pour chaque utilisateur d'une copie. Mais il y a beaucoup de détails qu'il faut changer pour répondre au changement du contexte, aux problèmes nouveaux que nous ne connaissions pas il y a 15 ans, 16 ans maintenant. Pour aussi des améliorations comme par exemple la compatibilité avec la licence d'Apache qui n'existait pas en 91. Mais maintenant, elle existe et la compatibilité est utile. Aussi, un processus de termination plus doux. Et aussi, par exemple, permettre l'utilisation de BitTorrent pour la diffusion des copies. C'est interdit selon la GPL version 2. Parce que BitTorrent fait des choses un peu bizarres qu'il y a 16 ans, personne ne prévoyait. Donc nous ne pouvions pas développer la licence de manière à permettre l'utilisation de BitTorrent. Mais évidemment, c'est bon de pouvoir utiliser légalement BitTorrent avec le logiciel libre. Donc nous avons fait le changement pour le permettre. Il faut aussi répondre aux dangers nouveaux, comme par exemple le danger de TiVoisation. Qu'est-ce que ça veut dire, la TiVoisation? C'est la pratique de développer une machine de vendre un produit qui est un ordinateur avec du logiciel libre, de manière que l'utilisateur pratiquement ne puisse pas le changer. Et pourquoi? Parce que la machine détecte les versions modifiées et comment dit-on, et s'arrête automatiquement. Donc, l'utilisateur peut obtenir le code source du programme si c'est un programme sous la GPL, et il peut changer le programme, il peut compiler sa version, il peut mettre le binaire de sa version dans la, dans le produit, et le produit ne fonctionne point parce que les circuits détectent que le logiciel a été modifié et s'arrêtent. Ça, c'est la tivolisation. Donc, nous avons interdit la tivolisation dans les produits destinés à l'utilisation des individus. Aussi, nous avons fait quelque chose de nouveau pour résister le danger des brevets informatiques. N'importe quel programme est vulnérable au brevet informatique et peut être tué par un brevet dans les mains d'un inconnu. Et la licence du programme ne peut rien faire contre ce danger. Mais pour le logiciel libre, il y a un autre danger, encore pire, qui est le danger d'un sort pire que la mort, d'être rendu effectivement privateur. Et nous pouvons résister cette sort par dire dans la licence que le programme meurt quand il est menacé d'un sort pire que la mort. Et c'est très important parce que des fois un détenteur d'un brevet veut tuer un programme libre, mais s'il pouvait exprimer de l'argent des utilisateurs du programme libre, ce serait plus attractif. Donc, si nous pouvons bloquer la possibilité d'extraire de l'argent avec le brevet, peut-être le détenteur ne nous attaque pas parce qu'il ne gagne pas en nous attaquant. Aussi, Microsoft peut-être voudrait détruire des programmes libres avec ses brevets, mais il a des clients qui sont aussi des grandes entreprises qui ne l'aimeraient pas parce qu'ils utilisent le système GNU et Linux et d'autres logiciels libres. Donc Microsoft cherche à comment dit-on, to squeeze something to get out fluid, pressé. Donc, Microsoft cherche à presser l'argent des utilisateurs de GNU et Linux. Comme, par exemple, dans l'accord qu'il a fait avec Novell. Mais nous avons développé la manière de renverser cet accord de manière que il nous protège de Microsoft. Et nous l'avons mis dans la version 3. Mais l'idée générale n'a pas changé et ne changera jamais. C'est de garantir que tous les utilisateurs possèdent les quatre libertés.
Bonsoir. Moi, je suis venu parce que je suis pas un technicien et apparemment il y a beaucoup, énormément de techniciens dans la salle. Et donc, je suis entouré par des systèmes informatiques. À chaque fois que j'utilise ma carte bleue, je suis repéré, fliqué et j'ai l'impression de vivre en 1984. Donc, je vois qu'il y a une pression politique, sociale et policière dans l'informatique. Je connais rien à l'informatique, mais j'aime ma liberté. Alors, en tant que société civile ou très très faible membre de la société civile, comment peut-on se défendre contre la matraque ou contre la police qui devient de plus en plus ou beaucoup trop oppressante?
Une chose à faire, c'est de ne pas acheter des choses avec la carte de crédit, acheter des choses avec du liquide. Autre chose est organiser politiquement. C'est difficile, je comprends. On voit la grande défaite d'avoir élu la SARCOM.
Oui, mais d'autre part, tout est fait pour qu'on soit de plus en plus isolé.
Je n'ai pas de recette magique.
C'est vrai.
Je fais ce que je peux. Dans un domaine de la vie, j'ai fait des avances dans la liberté, mais ça n'implique pas que je sais faire gagner la liberté dans tous les domaines de la vie. Je voudrais bien savoir.
Ben, merci d'essayer déjà.
Il marche ?
Oui.
Bonjour. Je vous êtes beaucoup battu en fait pour votre liberté. Vous avez commencé à appliquer cette liberté au niveau du logiciel. Maintenant, vous battez pour cette liberté au niveau des juridiques, au niveau des licences et pour promouvoir le logiciel libre. Mais je vais me demander maintenant, est-ce que votre prochain combat, ça serait pas au niveau du matériel ? Parce que les
je comprends
firmes,
pas
les...
ce que ça veut dire.
Les fondeurs comme ATI, Nvidia, tous les...
Je peux répondre maintenant.
Voilà.
Parce que je comprends ce
bon
que
alors,
c'est...
Bon, je finis pas ma question.
mais c'est une autre question. Il ne s'agit pas d'étendre les mêmes libertés au matériel, parce que c'est nul. Il n'y a pas de copieuse pour le matériel. Donc la liberté de copier le matériel n'a pas de sens. Mais... La question qui, oui, a du sens, c'est la savoir utiliser le matériel pour pouvoir écrire du logiciel libre pour le faire. Et il y a du matériel dans des ordinateurs dont les interfaces sont secrètes. Et quand l'interface d'un dispositif est secrète, comment pourrions-nous écrire le logiciel libre pour l'utiliser? C'est presque impossible. Il faut l'ingénie inverse. Et quoi? Si tout par... Qu'est-ce qu'il dit? Comment s'appelle-t-il? De toute manière, c'est difficile. Mais c'est la seule manière de faire le travail. Donc ce que nous devons faire, c'est organiser pour faire la pression sur les entreprises, sur les fabricants, de publier les spécifications de leurs produits. Parce que moi, je trouve que c'est insupportable offrir de nous vendre un produit et refuser de nous dire comment l'utiliser. Mais il paraît que ATI est en train de changer de politique parce que AMD a acheté ATI. Et récemment, ils ont dit qu'ils vont supporter le logiciel libre. Je ne connais pas les détails, mais peut-être c'est bon. Mais le problème est plus général, pas seulement dans les cartes graphiques, mais dans beaucoup de subdomaines des dispositifs physiques. Et donc, nous avons peut-être gagné une bataille, mais pas la guerre.
Merci.
Et pour organiser cette guerre, dans le site fsf.org, nous avons des pages de ressources matérielles selon les champs, qui donne la liste des produits qui supportent bien le logiciel libre. Donc, comme ça, vous pouvez acheter les produits qui fonctionnent bien avec le logiciel libre. Autre question?
Bonsoir. Je voulais... on entend là?
Non, il faut prononcer plus articulément toutes les consonnes. Parce que mon problème d'audition est de reconnaître les consonnes dans les conditions imparfaites. C'est dommage, mais je ne peux rien faire.
Ma question, c'est qu'est-ce que vous pensez de la position de Sun avec Java et OpenOffice? Est-ce qu'ils œuvrent dans...
C'est bon, oui. Est-ce que... ils sont libres maintenant, mais Java pas complètement, parce que il y avait des librairies de Java qui n'étaient pas développées par Sun, et Sun n'est pas autorisé à les libérer, donc il faut les remplacer. Et je crois que Sun participera dans ce projet de remplacement de ces librairies. C'est un projet donc qu'il faut faire. Et les programmeurs qui aiment le langage Java peuvent participer dans ce projet de terminer la libération de Java.
Bonsoir. Quand on développe un logiciel sous la licence GPL, on dit en tête de code que c'est la dernière version qui s'applique. Et ma question, c'est...
Ah non, pas sûr. Ou, pas normalement.
On dit...
On peut dire...
Version 2.
Une version... La version 2. On peut dire la version 2 ou autre version postérieure.
Dans... Ouais. Dans...
Et c'est ce que nous suggérons, de dire version 2 ou plus grand.
Dans ce cas-là, ça veut dire que c'est la dernière version qui sera la bonne?
Non. Si un programme, après la publication officielle de la version 3, chaque utilisateur aura le choix de suivre la version 2 ou la version 3. Si le programme dit version 2 ou plus grande.
D'accord, donc c'est l'utilisateur qui choisit.
Et donc, oui, et donc le choix de suivre, l'option de suivre la version 2 existera pour toujours. Parce que nous ne pouvons pas retirer l'autorisation déjà donnée.
Merci.
Oui, bonsoir.
Une autorisation qui pourrait être retirée n'est pas vraiment une liberté. Il doit être comme ça.
Oui, bonsoir.
Je crois deux questions plus, parce que c'est tard.
Oui. Excusez-moi, bonsoir. J'avais une question à vous poser concernant l'annonce récente du soutien de Nouvelles au combat de l'EFF. Et je voulais savoir...
Au combat de quoi?
Nouvelles a annoncé qu'ils allaient donner des fonds à l'Electronic Frontier Foundation pour...
C'est bon. L'EFF... ne se bat pas pour le logiciel libre, mais elle se bat pour d'autres causes importantes.
Mais dans leur annonce, ils ont souhaité donc se battre pour modifier les législations brevets dans le domaine du brevet logiciel dans le monde entier.
Et je voulais c'est bon.
Je ne
savais pas, mais c'est très bon. C'est une bonne nouvelle.
Voilà, je voulais savoir si c'était dans le sens de la FSF ou pas pour vous?
C'est, oui. Je ne savais pas. Mais j'ai lutté contre les brevets informatiques pour 17 ans. Et je suis content de voir des autres qui participent dans cette lutte. Peut-être l'exemple de l'entreprise qui cherche à breveter les corrections des problèmes de sécurité peut faire penser, peut encourager les gens à penser plus clairement à ce sujet. Autre question? Oui.
Ouais. Bah, moi, j'avais une question, sans revenir sur la polémique que vous lanciez tout à l'heure sur Linux. Moi, si j'ai bien suivi la chronologie, vous avez dit que vous avez lancé l'idée de GNU en 84.
L'idée en 83, mais j'ai lancé le travail, le développement en 84.
Et comment se fait-il qu'au moment où donc Linus Torvalds a ressenti le besoin d'avoir un noyau en 91, pourquoi le noyau n'avait toujours pas été développé et pourquoi ça n'avait pas été une priorité?
Il y a d'abord, le noyau est un des grands composants d'un système d'exploitation. En 84, j'avais beaucoup de grands composants à faire. Et en principe, on pourrait les faire dans n'importe quel ordre. Donc, je cherchais la manière de réduire le travail. Je cherchais pour tous les grands composants quelque chose pour commencer avec, pour réduire le travail à faire. Parce que c'était un travail si grand que personne n'était certain de le terminer. Donc, avec le noyau aussi, je cherchais quelque chose qui était libre et peut-être pas utilisable, mais qui pourrait être le commencement. Et enfin, j'ai trouvé quelque chose. J'ai trouvé le noyau Mach, qui on s'appelle parfois un micro-noyau, parce que il n'offre pas les services du noyau d'Unix, mais des services plus basiques et généraux, sur lesquels il faut développer le remplacement compatible pour Unix ou n'importe quoi. Donc, notre travail devrait être développer la moitié supérieure du noyau, parce que nous avions déjà la moitié inférieure. Donc, je pensais, moins de travail. Et aussi, étant donné Mach comme plateforme de base, nous pourrions développer notre moitié supérieure dans un système de partage de temps et déboguer chaque programme avec le débogueur symbolique normal, beaucoup plus facile, je pensais. Donc je pensais que avec cette conception, nous pourrions avoir un noyau utilisable dans peu de temps. Et donc j'ai commencé ce projet. J'ai employé quelqu'un pour faire ce projet en 90. Je ne sais pas pourquoi, mais il y avait beaucoup de problèmes dans ce projet. Et il paraît qu'il y a des problèmes fondamentaux dans cette conception. De toute manière, c'est un peu triste, mais ce n'est pas tragique, parce que Linux existe, donc nous avons un noyau libre, plus ou moins. Je dis plus ou moins parce que une des choses que M. Torvalds a fait, il a accepté l'introduction des programmes privateurs dans le code de Linux. Ces programmes ne tournent pas sur l'ordinateur central. Ils tournent sur des ordinateurs dans les dispositifs. Ils s'appellent firmware. Mais, ça veut dire, ils sont des programmes pas pour l'ordinateur central, mais plutôt pour des autres ordinateurs dans les dispositifs. Mais ils sont néanmoins programmes. Et ils ne sont pas libres. On les trouve comme des vecteurs de nombres, vecteurs de constants, des milliers de nombres. Et ce n'est pas du code source, c'est du code binaire déguisé en code source. Et donc c'est un problème. La distribution GNUSense a supprimé tous ces firmware blobs. Et donc, la version de Linux qui se trouve dans GNUSense est libre. Les effets de l'oubli de la liberté comme but peuvent se voir partout dans notre communauté. Il y a des centaines de distributions du système GNU et Linux. Et presque toutes ne sont pas libres, parce qu'ils contiennent des programmes pas libres. Il y a 5 ans, il n'y avait pas même une distribution libre. Et quand les gens demandaient à la fin d'une conférence, où est-ce que je pourrais trouver une copie de ce système? Je devais répondre, je ne sais aucun lieu que je pourrais recommander. Parce que toutes les distributions contenaient des programmes privateurs. Maintenant, je connais 3 distributions conçues pour l'installation qui sont libres, qui ne contiennent pas de programmes privateurs. Il y a Ubuntu, il y a Blag, B-L-A-G, qui veut dire Blag, Linux and GNU. Et il y a GNUSense, G-N-E-W-S-E-N-S-E, GNUSense, qui veut dire aussi nuisance, avec un G. Qui sont les distributions libres, mais elles ne sont pas les distributions que vous connaissez. C'est parce que les distributions beaucoup de succès contiennent des programmes privateurs. C'est vraiment faible. Et qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut éduquer les gens à apprécier la liberté. Donc, pour terminer, je présente mon autre identité. Je suis le Saint Ignatius. De l'église d'Emax. Je bénis ton ordinateur, mon fils. Donc, il n'y a plus de temps. Il y a des autocollants disponibles. Où es-tu qui tient les autocollants? Montre-toi aux gens. Et il y a des choses à vendre aussi pour financer l'FSF. Il y a des pins assez élégants et des porte-clés à vendre. 10 euros un pins, 15 euros un porte-clés. Et les autocollants sont gratuits. Et merci beaucoup. Il y a aussi les cartes pour s'adhérer à l'FSF. Il y a aussi une FSF d'Europe avec le site fsfeurope.org et vous pouvez vous adhérer aussi à l'FSF Europe à travers le site. Merci beaucoup. je suis athée.
Je ne parle pas. Et merci de toute manière.